Tous les week-ends, Claude Perronnet nous raconte nos histoires de vie avec petites et grandes histoires de la basse marche.
Bonjour à tous et merci de nous rejoindre pour cette nouvelle chronique des petites et grandes histoires de la basse marche que nous allons consacrer à quelques métiers d'hier en basse marche. Pour les textes, nous avons puisé dans les ouvrages suivants « Artisans mes amis » de Marcel Benesi, « Bulletin du Dolmen Club de Bellac » de 1909, la revue de la Société ethnographique du Limousin et de la Marche, un article de Madame Laguenière, Pleine Terre et le voyage rustique de Charles Sylvestre, la Société rurale en Limousin et Basse Marche d'Albert Gourceau et Jour de gloire, un recueil de poésie de Georges Déchira.
La Basse Marche a plein d'histoires à raconter. Écoutez-les avec petites et grandes histoires de la Basse Marche.
Dans le bulletin du Dolmen Club de Bellac de 1909, on trouve une liste des métiers de Bellac au XVIIe siècle. En plus des tanneurs, dont nous avons déjà parlé, et des meuniers, dont nous parlerons en mars prochain, on découvre d'abord les métiers de la céramique, des briquetiers, des potiers, des tuiliers, essentiellement installés à Saint-Sauveur, à Chapterie et aux Tuilières. On trouve même un faïencier, décédé à Bellac en 1696. Ensuite, il y a les métiers des arts industriels, parmi lesquels les potiers d'étain qui produisent à Bellac de la vaisselle d'étain, des plats, des assiettes, des gobelets, des brocs. On trouve aussi une famille d'orfèvres, de nombreux pâtissiers qui sont regroupés dans la même rue, la rue des pâtissiers. Il y a encore tous les métiers de la justice et aussi des musiciens, parmi lesquels un cornemusier, des peintres, des sculpteurs.
Son don de valure, la remailleuse de bas, le crieur de journaux et la loueuse de chaises, où dans ce sont perdus la cardeuse de matelas, l'aiguiseur de couteaux et le sucreur de fraises, qui dans les a remis le marchand de bourron, la porteuse de pain et le montreur de vue. Ils ont bien disparu, le crieur de marron, l'écorcheur de lapin et le chanteur des rues.
Plus tard, Madame Laguenière a recensé pour la période de l'avant-guerre les différents métiers à Saint-Bonnet de Bellac. En dehors des cultivateurs, on trouve de nombreux meuniers, fariniers, chasserons. Les chasserons, ce sont les valets des meuniers. On trouve deux huiliers, cinq cidriers, trois bouilleurs de cru, deux marchands de vin en gros, un boucher, huit aubergistes au bourg et un bistrot dans chaque hameau, cinq sabotiers, deux cordonniers, des couturières, des patronnes, plus des apprentis, plus les couturières à la journée, deux tailleurs, un en atelier, l'autre à domicile, deux repasseuses, deux coiffeurs, plusieurs laveuses à la journée, deux marchands de tissus, de nombreux bûcherons, fendeurs, scieurs, écorcheurs de chêne, rouliers, un charbonnier, six forgerons maréchaux ferrants, deux charrons, un courrier, une espèce de taxi-poste, une dizaine d'ouvriers carriers, des casseurs de cailloux et bien sûr des maçons migrants. Au cours de ces chroniques des petites et grandes histoires de la basse marche, nous vous avons déjà parlé des colporteurs et des différents marchands ambulants, des tailleurs et des couturières, des bergères, des mendiants, des épiciers, des arracheurs de dents, des tanneurs, des tonneliers. Nous parlerons plus tard des tuiliers et des briquetiers, des meuniers et des boulangers. Aujourd'hui, nous voulons traiter des forgerons, maréchaux ferrants et charrons et des sabotiers.
Pas de repos, toujours au boulot, ils forgent, forgent, forgent. Les trois garçons du forgeron, Émile, Antoine et Georges, et leur enclume est bing et bon, ébranlent la maison. Joyeux luron, gentil compagnon, ils chantent à pleine gorge. Battons le fer tant qu'il est chaud, papa dira bravo, c'est en forgeant joli s'usant qu'on devient forgeron. Et forge, forge, forge.
La Basse Marche a plein d'histoires à raconter. Écoutez-les les samedis à 11h et dimanche à 13h avec petites et grandes histoires de la Basse Marche.
Le maréchal ferrant et le forgeron. Nous empruntons la définition à Dominique Lecointre dans Métier de forgeron et de maréchal ferrant, un bulletin de la Société ethnographique du Limousin et de la Marche. Le métier classique est celui de forgeron, four ou fourgierou, tandis que celui de maréchal, maréchaux, est plus spécialisé. le maréchal est particulièrement expert à fabriquer des outils tranchants. C'est la définition que l'on trouve dans le dictionnaire de Don Duclos. Le forgeron est celui qui travaille le fer. Il travaille le fer à la forge, dont la flamme est actionnée par un soufflet. Quand le fer est rouge, le forgeron le prend avec des pinces, le pose sur l'enclume, où il le frappe avec un marteau pour lui donner la forme souhaitée. La définition du maréchal est incomplète, car elle ne tient pas compte de la fonction principale de cet artisan, le ferrage des chevaux. La définition originelle du métier de maréchal ferrant me paraît être le ferrage et le soin des chevaux, et par extension des autres animaux de trait. Je possède, nous dit l'auteur, un ouvrage publié en 1675 du sieur Solécel, intitulé « Le véritable parfait maréchal » qui enseigne à connaître la beauté, la bonté et les défauts des chevaux, la manière de les conserver dans les fatigues des voyageurs, de les nourrir et de les panser avec méthode, la ferrure sur le dessin des fers qui rétabliront les méchants pieds et conserveront les bons. Donc le maréchal ferrant faire les chevaux, les ânes, les mulets, les vaches et même les cochons. Peu de paysans possèdent un cheval, animal trop cher pour leur budget. Quelques-uns seulement ont un âne et parfois un mulet. Les paysans et meuniers font essentiellement ferrer leurs bœufs et vaches de trait. Par contre, un commerçant comme le marchand de vin est client presque uniquement pour le ferrage de son cheval. Le maréchal ferrant fait ou répare les pièces qui servent à atteler les animaux, les joues de bœufs, les brancards de carriole, les entraves de jument. Il s'occupe également des carrioles et des voitures.
Tous les week-ends, Claude Perronnet nous raconte nos histoires de vie, les racines de la région.
Passons maintenant au forgeron. Il fabrique ou répare tous les objets qui contiennent du fer. On les classe en quatre grands groupes. La quincaillerie, c'est-à-dire la fabrication des clous, des pointes ou des boulons. Puis la production des outils agricoles, pointes de marteau, pointes de règle, boulons pour les charrues ou pour les chars. Fabrication des charrues, des arrères, des herses, des faux, des taille-près, des fourches, des pics, des fléaux, des pelles, des tranches, des raclous, des haches ou des hachous. Ensuite, les pièces pour les portes et fenêtres, les serrures, les clés, les targettes, les gonds, les verrous, les loquets, les ferrements. Enfin, les ustensiles domestiques, les seaux, les marmites, les platines, les crémaillères. Les gestes du forgeron se définissent par un nombre restreint de verbes. Faire, ressouer, acérer, ferrer, mettre ou peser, arranger, réparer, chausser, morler et souder.
A-t-on jamais posé la tête sur l'enclume en attendant que ça fasse le marteau écrasé par le poids lourd de la plume? On est quoi nous pour faire se mousser les mots? On est quoi quand au pays de l'olive et de la figue des lames glissent doucement sur des peaux et qu'ailleurs tristement se fatigue des humains, le cœur, les mains en lambeaux.
Avec Charles Sylvestre, nous allons entrer dans l'antre du forgeron. Léonard, le forgeron, a sa provision de souches et de fagots. Il ne se plaint pas de l'hiver, c'est la bonne saison pour lui. Beaucoup de gens qui ont des babioles à faire arranger viennent lui tenir compagnie, alors que pendant l'été, il ne s'attarde pas dans les chopes. Il y a longtemps que je connais ce repère, il m'émerveille toujours. Sous les chevrons enfumés, voici la table du feu, une ferrure de roue le garde. Au bord, il y a des pinces qui prennent le métal brûlant. Au-dessus, la cheminée s'ouvre comme une hotte renversée, suspendue. Une moitié de barrique coupée remplie d'eau noirâtre est à demi masquée par le foyer qui s'arrondit en arc de four. La forge est orientée du nord au midi. La porte, à double battant, s'ouvre de plein pied sur la seule rue du village. À l'autre bout, bien en face, un vitrail donne sur un pré-verger. À la clarté, il y a une tablette formée d'un madrier de chêne où les étaux sont fixés. Aux murailles, les outils sont rangés en ordre, les coins d'acier, les tenailles, les scies à métaux, les clés, les limes, les filières. Une étagère est pleine de sabots que Léonard vient de ferrer. Près du seuil, la meule a aiguisé. Au milieu, l'enclume se dresse sur un billot. Elle est si fine, si mesurée qu'elle paraît merveilleusement légère. Doublement aiguë, ses pointes ne peuvent blesser, ainsi la graine du froment. Le marteau la touche à peine, elle teinte, il l'effleure seulement, elle parle. L'apprenti joufflu tire la chaîne du soufflet à poids, Léonard attise le brasier, voilà qu'une flamme se hérisse dans un brusque souffle qui la soulève et la travaille. Puissante et dure, elle devient d'une éblouissante blancheur, monte comme une colère. Autour des parcelles de charbon, voltige. Léonard prend une paille mouillée, l'arrose, pour modérer le feu. L'ardente force continue de gronder dans une vapeur. Il donne au foyer une barre de fer, il s'agit de former des pièces pour une charrue. Bientôt, il saisit la barre, d'un mouvement vif, elle pétille, étincelante, en hâte. Il la place sur l'enclume, cogne dessus à coups redoublés, précis. Elle s'allonge et se courbe sous la forme désirée. Parfois, il frappe à nu sur l'enclume pour tromper une impatience de muscles. Attentif, il enfonce la barre dans l'amas de braise et la plonge dans l'eau du baquet où elle grésille. Parfois, ajoute Charles Sylvestre, il fait de menus travaux, répare des pioches ou tord de petites baguettes qui vont ferrer les sabots. D'autres fois, il s'agit de forger d'énormes pièces ou bien encore des chenets, des portails, des lames de soc. Il sait aussi fignoler les clous de joue ou bien réparer les machines agricoles.
Petites et grandes histoires de la basse marche.
Le travail du maréchal Ferrand maintenant. On l'a vu, le travail du maréchal Ferrand, pour une large part, consiste à ferrer les chevaux, les bœufs et les vaches de trait. Si dans la majorité des cas, et pour les animaux dociles, le ferrage est effectué sans entrave mais avec une simple longe, pour les chevaux plus difficiles et pour les vaches et les bœufs qui ne peuvent rester debout sur trois pattes, le maréchal Ferrand utilise un métier à ferrer, un travail à ferrer, que l'on appellera simplement « travail » au singulier et aussi « travail » avec un « s » au pluriel. C'est un espace aménagé à l'intérieur de l'atelier ou à l'extérieur. Dans ce cas, il est couvert d'un toit à deux eaux, constitué d'un bâti très robuste dans lequel le cheval ou le bœuf est entravé à l'aide de sangles et de ventrières. L'ensemble se caractérise par sa rigidité et son extrême robustesse. Il s'agit en effet de limiter les mouvements d'animaux particulièrement vigoureux et quasi de les soulever alors qu'ils pèsent jusqu'à près d'une tonne. Dans le passé, la plupart de nos bourgs ou de nos villages possédaient leur propre travail. Voici quelques années, nous en avons trouvé d'assez bien conservés, par exemple à Breuilhofa ou à Saint-Barban. Voici un petit texte sur le travail du maréchal Ferrand dans la région de Saint-Sulpice-Laurière. Les clients arrivaient avec leurs bêtes au lever du jour, la forge les attendait. Le louis immobilisait l'animal dans les sangles de son travail. Les fers rougissaient dans la braise. Des quatre pieds fourchus, il protégeait l'onglon extérieur, grésillait alors le sabot et s'envolait une écœurante odeur de corne brûlée. La chaussure était fixée avec de longs clous effilés à grands coups de marteau. Le plus surprenant, c'était la placidité de la bête. On crispait les doigts dans ses poches et les orteils dans ses galoches. Puis, on reprenait le chemin de l'école.
Tous les week-ends, Claude Perronnet nous raconte nos histoires de vie, les racines de la région.
Une petite précision sur un métier que l'on confond parfois avec celui du maréchal Ferrand ou du forgeron, c'est celui du charron. Nous empruntons les informations à Albert Gourceau. C'était au charron qu'incombait la fabrication et la réparation de tout le matériel de transport. Brouettes, chartons, charabancs, charabeux et tombereaux, ainsi que certains matériels d'attelage tels que les joues à cornes. Son travail le plus courant, c'était la fabrication des charrettes. Il en existait deux modèles, le grand char de 10 pieds, dont le bâti avait 10 pieds de longueur, soit 3,30 mètres, ce qui, avec le prolongement du timon auquel étaient attelés les animaux, donnait une longueur hors tout de 6 mètres. Et le petit char, avec un bâti d'environ 2,30 mètres et une longueur hors tout de 5 mètres. L'essieu était fourni par l'industrie et utilisé tel quel. Mais toutes les autres pièces, le bâti, la caisse, les roues, étaient fabriquées par le charron. L'étape la plus importante du travail du charron, c'est le ferrage des roues, qui consiste à entourer la roue en bois d'un bandage de fer. Lorsqu'il était prêt, le bandage était porté dans une cour voisine de l'atelier, posé sur des pierres, puis entouré d'un bûcher fait de fines bûchettes dressées en couronne autour de lui. On mettait le feu, et lorsque le fer était à la température voulue, ce que l'ouvrier qui dirigeait l'opération reconnaissait à la couleur du métal, 3 hommes, armés chacun d'un crochet, s'emparaient du cercle qui, sous l'effet de la chaleur, s'était dilaté et le plaçaient vivement sur la jante, tandis qu'un 4e se hâtait de le refroidir en l'arrosant de seaux d'eau. Dès que le bandage commençait à se contracter et à serrer fortement la jante, les 3 premiers lâchaient leur crochet et, s'emparant chacun d'un maillet, tapaient à tour de bras sur la jante et les rayons afin que tout s'emboîte bien. Le montage n'était plus alors qu'un travail de routine.
Toi, mon ami, le forgeron, toi qui forgeais des jours si ronds, toi qui forgeais des jours si purs, mêlant l'acier avec l'azur, dis, qu'as-tu fait de Madeleine, la jolie fille de nos plaines, pour qui ton cœur battait si doux? Elle est partie, Dieu seul sait où. Qui a dit j'aime, dit j'espère, nous nous reverrons sur la terre, odeur du temps d'Apollinaire. Ta forge a perdu son charbon.
Avant de passer au sabotier, écoutons ce poème de Georges Descherat, Le Forgeron. Père est là, dans son antre, où couve le brasier qui rougit un long fer destiné à l'enclume. Car bientôt, le marteau s'abat pour rudoyer le prisonnier ardent dont l'âme enfin s'exhume. Vêtu d'un cuir épais, titan réincarné, le forgeron puissant frappera sans relâche et jailliront alors avec docilité d'énormes galaxies en forme de panache. C'est un Zeus au bras nu qui martèle et qui cogne dans son Olympe rude où le feu est un roi, un monarque têtu qui règne sans vergogne sur des ferrailles vierges et soumises à sa loi. Créateur, accoucheur de sujets travaillés qui orneront les murs d'un chalet d'un autre âge, artiste méconnu, amant de la beauté, tu es, cher maréchal, de Dieu, l'humaine image. Et dans Nostalgie, toujours à propos du forgeron et de la forge, il avait écrit « Vieille forge, forge rustique, forge de mes aïeux, ton enclume ne teinte plus, ta cheminée ne fume plus, ta braise éteinte ne reçoit plus les cieux, ton souffle béant ne fait plus de vent, plus d'estoc ni de soc, ou Vulcain s'est-il donc enfui ?»
Les sabots d'Hélène étaient tout crottés. Les 3 capitaines l'auraient appelée vilaine. Et la pauvre Hélène était comme une âme en peine. Ne cherche plus longtemps la fontaine, toi qui as besoin d'eau. Ne cherche plus aux larmes d'Hélène. Va t'en remplir ton seau. Moi j'ai pris la peine de les déchausser, les sabots d'Hélène, moi qui ne suis pas capitaine, et j'ai vu ma peine bien récompensée dans les sabots de la pauvre Hélène, dans ses sabots crottés. Moi j'ai trouvé les pieds d'une reine et je les ai.
Petites et grandes histoires de la basse marche.
Nous allons donc quitter le forgeron pour le sabotier avec ce texte de Marcel Benesi. Les portes s'ouvrent sur un royaume au parfum chaud de forêt, douce quiétude d'atelier, où l'homme affirme sa maîtrise d'ouvrier consciencieux. Entrons dans une saboterie. Du sabot à la galoche au cuir verni, du sabot souvenir au sabot miniature, que de merveilles, que de patience, d'adresse, d'amour, pour tailler, façonner, polir le bois qui se transforme par le jeu des mains en petit chef-d'œuvre. Devant nos yeux ravis, le sabotier modèle sa création en artiste. Grâce aux confidences d'un ancien, fier d'une époque hélas révolue, visitons la galerie des souvenirs. Jadis, les premiers sabotiers vivaient au cœur de la forêt, installés pour plusieurs mois dans une cabane en planche. On travaillait dur pour faire les socs, des journées de 10, souvent de 15 heures. On mangeait, on dormait même dans cette rustique demeure, dans un lit de paille, à la dure quoi. Associés, deux sabotiers se partageaient la rude tâche. Ah, quels robustes et courageux ouvriers, les sabotiers de ce temps-là. Ils ne rechignaient pas à la besogne, on vous le dit. N'abattaient-ils pas les arbres eux-mêmes, selon leurs besoins? Ensuite, ils les tronçonnaient, les fendaient, comme le font les bûcherons. Puis ils dégrossissaient à la hache, un outil spécial à manche recourbée pour éviter qu'on ne frappe pas la hanche, et creusaient à la main. Chacun sa partie, l'un pour le travail extérieur, l'autre pour l'intérieur du sabot. Une parfaite connaissance du métier s'avérait nécessaire. 3 ans et plus d'apprentissage afin d'acquérir la perfection dans le geste et d'obtenir un rendement maximum. Ainsi, on fabriquait 18 paires de sabots par jour, parfois plus. Mais que de fatigue pour celui qui maniait la hache tout le jour et tous les jours. Et quelle adresse fallait-il posséder pour creuser sans défaut les sabots? Sûr, on travaillait plus qu'aujourd'hui.
En passant par la Lorraine avec mes sabots, en passant par la Lorraine avec mes sabots, rencontrer 3 capitaines avec mes sabots d'Ondaine, oh oh oh, avec mes sabots. Rencontrer 3 capitaines avec mes sabots, rencontrer 3 capitaines avec mes sabots. Ils m'ont appelé vilaine avec mes sabots d'Ondaine, oh oh oh, avec mes sabots.
Petites et grandes histoires de la basse marche.
Quand et comment naît le sabot? Alors différents bois sont employés, le hêtre, le bouleau, le noyer, mais le bois le plus utilisé reste le hêtre, bois droit, qui se travaille mieux et laisse moins de pertes. Ce bois qu'on dégrossit vert sèche pendant une période qui varie selon les saisons de 3 à 5 mois. Les bouts de bois, si à 35 cm de longueur, passent au gabarit avant de subir un dégrossissage à la scie à ruban. Ensuite, on les confie à la machine à reproduire en les réglant sur le modèle plein. Au gré de cette machine naît la forme du sabot qui est alors ajustée sur la machine à creuser. Là, apparaît la main de cet artisan qui surveille et agit afin de donner le creuset adéquat. Le creusage terminé, le travail manuel devient effectif et majeur. Il faut couper les bouts, fignoler et poncer. Cette dernière phase nous révèle l'adresse et le sens artistique du sabotier qui polit amoureusement le bois.
Il est un vieux sabotier, plus barbu que Charlemagne. Il est un vieux sabotier qui connaît bien son métier. Sa chaumine est tout là-haut sur la montagne. Sa chaumine est tout là-haut, bien loin de notre hameau. Et puisque dans la flamme blonde, la bûche vient de pétiller, devant le feu dansons la ronde du vieux sabotier. Quand il a fait des sabots de noyer ou bien de hêtre, quand il a fait des sabots pour les grands et les petits hauts, il descend la hotte au dos avec sa barbe d'ancêtre. Il descend la hotte au dos de la montagne là-haut. Et puisque l'heure par seconde s'envole du grand balancier, devant le feu dansons la ronde du vieux sabotier.
Dans son roman Le Voyage rustique, Charles Sylvestre nous parle lui aussi du sabotier. Nous allons vérifier si la démarche est identique. Vous l'allez entendre, la pratique est encore plus artisanale. J'allais dire bonjour au sabotier qui travaille non loin sous un auvent et appuyé à une maison basse. Il est vieux et gai. Il aime à pousser un brin de chanson. Le métier n'enrichit pas, me dit-il. Bon, il me plaît comme ça. On s'en tire. Ce n'est pas facile de voir d'un coup d'œil combien il y a de sabots sous la peau d'un arbre. Moi, je le sais, à mon âge. On coupe l'arbre en billes, après, on le fend en quartiers. Le vergne rougit comme une pomme coupée. Deux quartiers pour une paire de sabots, et on enlève les nœuds. Avec cette hache crochue, on dégrossit le bois, et on lui fait prendre la forme. Après, encore, on modèle avec le paroir, puis on creuse. Je mets les sabots à sécher sur une traverse dans la cheminée, comme des jambons. Alors des fois, j'aimerais mieux des jambons. Mais les jambons, on les fait avec des pommes de terre et des gorets. Une fois secs, je les sculpte selon l'idée du client. J'en ai fignolé avec des fleurs et des feuilles dessus. Pour les amoureux, c'était deux cœurs bien appariés. Ils étaient mignons comme des bouquets. Pas les amoureux, mes sabots. Mais on ne danse plus en les faisant claquer bravement. Dans mon jeune temps, c'était plaisant de voir une bonne troupe de jeunesse virant sur de fins sabots. Cela n'avait pas les deux pieds dans la même chaussette. Et il fredonna. Combien coûteraient tes sabots s'ils étaient neufs? Sur la petite place, mes sabots font clic, clac, clic, clac, clic, clac. Il eut un geste de sa main dure, comme pour saluer quelque chose qui s'en allait et qui ne reviendrait plus.
Ding-ding-dong-dong, ce sont les filles des forges. Ding-ding-dong-dong, ce sont les filles des forges. Des forges de pimpons, ding-ding-dong-dong. 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 Ding-ding-dong-dong, elles s'en vont à confesse. Ding-ding-dong-dong, elles s'en vont à confesse. Au curé du canton, ding-ding-dong-dong. Au curé du canton, ding-ding-dong-dong. Au curé du canton, ding-ding-dong-dong.
Merci de nous avoir suivis pour cette nouvelle chronique des petites et grandes histoires de la basse marche que nous avons consacrée à quelques métiers d'hier en basse marche. Pour les textes, nous l'avons fait en compagnie de Marcel Bénézy, de Madame Laguenière, de Charles Sylvestre, d'Albert Gourceau et de Georges Deschérat. Pour les accompagnements musicaux, nous avons fait appel aux chanteurs Philippe Lazor, Pierre Dragon, Prisca, Juliette, Lise Medini, aux compositeurs Heidel, au groupe Maluzerne, Dorémy, les Quatre Barbus et nos complices Bel Accord que nous écoutons en ce moment nous interpréter Les Filles des Forges. Je vous donne rendez-vous le week-end prochain pour une nouvelle chronique des petites et grandes histoires de la basse marche. À très bientôt donc et très bonne semaine à vous tous.
La basse marche a plein d'histoires à raconter. Écoutez-les les samedis à 11h et dimanche à 13h avec petites et grandes histoires de la basse marche.
Des forges de pimpons, ding-ding-dong-dong.